Bonjour à tous, nous sommes au Centre Sèvres, l'Université des Jésuites de Paris, pour la première rencontre des Mardis d'éthique publique de l'année, une soirée qui sera retransmise sur la radio RCF. Ce mardi 5 octobre, avec la publication ce matin du rapport Sauvé, est un moment de vérité pour l'Église catholique, et c'est du travail de la SIAZ et de ses conséquences pour les victimes et pour l'Église catholique dont nous allons parler ce soir avec nos deux invités. Une soirée préparée par François Heuvé et Jean-Luc Poutier. C'est Jean-Luc Poutier qui conclura la soirée et je laisse à François Heuvé le soin de l'introduire et de présenter nos invités.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous vivons en effet un moment important dans la vie de l'Église catholique, un moment de vérité. Ce matin, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, dite commission Sauvé, a rendu son rapport à ses deux commanditaires, la conférence des évêques de France et la conférence des religieux et religieuses de France, COREF. Ce rapport était attendu depuis longtemps. Il est le fruit d'un travail d'environ 2 ans et demi, la première rencontre ayant eu lieu le 8 février 2019. Sa composition réunit toutes les expertises que l'on peut souhaiter dans ce domaine, psychologue, historien, juriste, théologien, canoniste, spécialiste de l'enfance, etc. Son travail a consisté d'abord à établir les faits des multiples affaires de violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables commises par des prêtres, des religieux et parfois aussi des religieuses. L'accès aux différentes archives a été complété par des auditions et des enquêtes spécialisées. L'écoute des victimes a été une étape cruciale dans la prise de conscience de ce qu'ont représenté ces violences. Après l'établissement des faits, la Commission a réfléchi sur un certain nombre de préconisations concernant la gouvernance de l'Église, la théologie du sacerdoce, la formation du clergé, la morale sexuelle, etc. Il s'agit d'une 50aine de recommandations pour une démarche de vérité et de réparation vis-à-vis du passé, pour une prévention sans faille à l'avenir. L'écoute des victimes a été centrale et décisive. Comme l'écrit Jean-Marc Sauvé dans la présentation du rapport, elles détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles et elles seules pouvaient nous y faire accéder pour qu'ils puissent être restitués. Ces victimes étaient souvent silencieuses, elles ont pris la parole et elles sont devenues témoins et acteurs de la vérité. Grâce à elles et grâce à tout le travail accompli, une étude très sérieuse a pu être menée. La reconnaissance des faits est une étape essentielle à l'encontre de toutes les stratégies de dissimulation ou de déni, consciente ou inconsciente. Un long chemin reste à faire, il commence aujourd'hui, pour rétablir la confiance. Pour terminer cette brève introduction, je voudrais souligner ce que peut apporter une commission indépendante, afin de sortir de la culture de l'entre-soi, qui marque encore trop souvent le monde ecclésiastique. Dans l'entretien qu'elle avait donné à la revue Études en décembre 2018, au moment où se décidait le principe de la commission, Véronique Margron nous disait « Encore trop de responsables pensent que l'Église peut s'en sortir par elle-même, sans faire appel à des ressources extérieures. Je crois au contraire que l'on avancera si l'on accepte de confier en partie les clés de la résolution de ce drame et de cette ignominie à d'autres instances à qui l'Église fera confiance. C'est bien ce qui s'est passé, et nous pouvons être reconnaissants à M. Jean-Marc Sauvé et à tous les membres de la Commission pour le travail accompli. » Dans un premier temps de cette soirée, pendant une dizaine de minutes, nous entendrons d'abord Philippe Portier, historien et sociologue, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, professeur à Sciences Po. Membre de la commission Sauvé, il a dirigé la recherche archivistique et socio-historique. Il nous dira ce qu'a représenté pour lui ce parcours. Dans un deuxième temps, nous entendrons sœur Véronique Margron, religieuse dominicaine, théologienne moraliste, présidente de la conférence des religieux et religieuses de France, donc une des commanditaires de ce rapport, et investie en outre depuis longtemps dans l'accompagnement des victimes d'abus. Elle nous dira comment elle reçoit ce rapport et ce que peut représenter la prise en compte de la parole des victimes. Après un temps d'échange entre les intervenants, la parole sera à la salle pour un temps de questions. Je laisse la parole à Philippe Portier.
Bien. Je ne sais pas si. Oui. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements les plus chaleureux à Jean-Luc Poutier et à François Heuvé pour leur invitation. C'est toujours pour moi un plaisir et un honneur de parler au Mardi d'éthique publique, d'autant que mon interlocutrice est Véronique Margron, dont chacun ici connaît tout à la fois la réflexion et l'engagement sur les questions relatives à la pédocriminalité. Alors, Jean-Luc Poutier et François Heuvé m'ont demandé d'évoquer le travail de la commission Sauvé et les premières conclusions auxquelles cette commission est parvenue. Je n'ai que 10 minutes devant moi, vous le savez, et donc je voudrais simplement vous présenter les grandes lignes de cette entreprise qui nous a retenus 2 ans et demi, en nous demandant, vous le devinez, beaucoup, beaucoup de travail. Vous faire entrer, en somme, dans l'atelier de la commission à partir de 3 grands axes. Vous dire d'abord comment la commission a été constituée. Évoquer ensuite les méthodes que nous avons développées pour arriver aux conclusions. Enfin, ce sera le troisième point de cette intervention que la commission peut proposer à l'Église, peut proposer à la catholicité, peut proposer aussi à la société française. Alors les acteurs. Je voudrais aller très vite sur ce point. Beaucoup d'entre vous ont déjà lu maints articles de presse en la matière. Vous savez que la commission a été instituée en 2018 à l'initiative de la Conférence des évêques de France, présidée alors par Monseigneur Pontier, et de la Conférence des religieux et religieuses de France, présidée par sœur Véronique Margron. Alors, nous sommes dans un climat, alors dans un contexte très particulier, marqué en Église par le procès Preynat, marqué dans la société tout entière par une sensibilité accrue vis-à-vis de la question de la pédophilie ou de la pédocriminalité, comme l'a montré, par exemple, l'aventure de MeToo qui est venue dénoncer tel ou tel qui aurait commis des violences. Très vite, le choix se porte sur Jean-Marc Sauvé. On lui demande d'assurer la présidence de cette commission. Ce choix ne doit rien, je crois, au hasard. Il se fixe sur un acteur politico-administratif, si j'ose cette expression, dont le parcours est marqué par une certaine multidimensionnalité. Jean-Marc Sauvé, c'est d'abord un très grand serviteur de l'État. Très grand serviteur de l'État, après être passé par l'École nationale de l'administration, dont il sort premier major à la fin des années 70, il embrasse immédiatement une carrière au Conseil d'État. Comme il arrive souvent, il n'y restera pas longtemps au Conseil d'État. Très vite, il ira vers des cabinets ministériels. Très vite, il ira du côté du ministère de l'Intérieur. Il deviendra même préfet avant, à un moment donné de sa carrière, d'embrasser la fonction de secrétaire général du gouvernement. Secrétaire général du gouvernement pendant de très longues années où il servira des premiers ministres venus d'horizons politiques différents, depuis le Parti socialiste jusqu'aux Républicains aujourd'hui. Tout cela se terminera par l'accès au poste de plus haut fonctionnaire de l'État. Il deviendra vice-président du Conseil d'État à la fin des années 1990, au début des années 2000. Vous avez là un parcours tout à fait significatif de l'excellence politico-administrative dans notre pays. Et je dois vous dire que tout cela s'est vu au cours de la commission. Il y avait chez lui une véritable maîtrise du travail de la commission, une sorte d'efficacité qui nous a permis d'aller jusqu'au bout de cette aventure en mettant en œuvre, comme vous allez vous en rendre compte, de multiples compétences. Mais Jean-Marc Sauvé est aussi, il le dit lui-même d'ailleurs, un catholique. Sa pratique religieuse est au principe, nous dit-il, de son désir de servir le bien commun. Un catholique pratiquant qui s'affirme comme tel et qui, s'il a le goût de résoudre les problèmes sociaux, a aussi le goût d'embrasser les problèmes ecclésiaux. Il nous le dira à plusieurs reprises, dès les premières réunions plénières de notre commission, et on a vu qu'il y avait pour lui, là, quelque chose de très important à titre subjectif, à titre personnel, dans la mission qui lui était confiée par Sœur Margron et par Mgr Pontier. Puis j'ajouterai un troisième point, on l'ignore parfois, Jean-Marc Sauvet a également une véritable sensibilité pour tout ce qui concerne les problèmes de l'enfance. Certains d'entre vous le savent peut-être, il est, lui, président de la Fondation des apprentis d'Auteuil, et c'est un point aussi très important dans sa discipline. Alors vous voyez que nous avons affaire ici à un acteur multidimensionnel dont les qualités étaient évidentes pour prendre en compte ce travail. Sœur Véronique Margron, Mgr Pontier, aurait pu lui donner des indications précises sur la façon de constituer sa commission. Il n'en a rien été. Très vite, il s'est montré, il nous l'a dit à plusieurs reprises, tout à fait indépendant dans la constitution de la commission qui allait ensuite travailler 2 ans et demi. Alors cette commission, il la constitue en variant les critères. Il y a d'abord un critère démographique, il veut un éventail d'âge assez étendu, assez large, et en effet, la plus jeune d'entre nous a 35 ans, le plus ancien, plus de 75 ans. Vous voyez que nous sommes là confrontés à plusieurs générations, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous allons embrasser, dans le cadre du travail de la Commission, plusieurs générations d'abus, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, car les abus ont changé avec le temps. Critères d'âge, critères de sexe aussi. Il insiste beaucoup sur la parité. En effet, la dimension genrée, comme on dit aujourd'hui, de l'abus mérite d'être soulignée. Peut-être vous en parlerai-je tout à l'heure lors du débat. À côté de ces critères-là, critères sociodémographiques, il y a aussi un critère auquel tient le président, qui est le critère religieux ou convictionnel. Il ne veut pas une commission homogène. Et il va constituer sa commission à partir d'un éventail très large d'appartenance. Éventail très large d'appartenance allant de catholiques pratiquants, labellisés comme tels, à des athées qui affirment clairement, poliment, mais clairement, leur distanciation à l'égard de la figure divine. Tout cela aurait pu constituer un obstacle à la production de notre travail. Ça a souvent été un atout dans notre réflexion. Puis le dernier point, François Hevé le signalait à l'instant, c'est que cette commission est constituée à partir d'une multiplicité de compétences professionnelles. Il y a en effet parmi nous des juristes, des théologiens, des psychiatres, des psychologues, des spécialistes de la protection de l'enfance, des historiens, des sociologues, des démographes, et tout cela pour une commission qui comporte au bout du compte 21 personnes. Alors, que faire avec ces compétences réunies ? Nous avons immédiatement, nous sommes institués après la nomination de Jean-Marc Sauvé en novembre 2018, nous nous constituons en commission dès janvier 2019. Et très vite, nous réfléchissons au travail que nous allons mener. Il n'y a pas eu de temps de répit. Une première réunion et très vite, nous avons défini le cadre dans lequel nous allions travailler. Alors, premier élément, je dois dire que pour moi qui venais de l'université, qui venais de l'école pratique des hautes études, ça a été un point de surprise. Jean-Marc Sauvé nous dit immédiatement « travail d'écoute ». Alors que moi, je voulais, dans un premier temps, objectiver davantage les réalités à partir d'une analyse des pièces archivistiques, à partir d'une analyse statistique. Non, Jean-Marc Sauvé lance tout de suite ce qui va devenir, et à juste titre, la perspective de notre commission. Écoutez. Écoutez d'abord les personnes victimes. Ce n'est pas un hasard si notre rapport se place sous l'exergue suivante. Quiconque scandalise un de ses petits, il vaut mieux pour lui qu'on lui suspendût au cou une meule d'âne et qu'on le jetât au fond de la mer. C'est par ce fragment issu extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, que s'ouvre le rapport Sauvé. Cela vous donne immédiatement la perspective qui va être la nôtre Il s'agit de nous mettre à l'écoute de ceux qui ont souffert, à ce point d'ailleurs que nous écouterons plusieurs centaines, dans des configurations différentes, plusieurs centaines de personnes victimes. Tout cela pour deux raisons. D'abord parce que nous attachons au travail d'écoute une fonction réparatrice. Il s'agit déjà d'un premier pas sur le terrain de la reconnaissance des personnes abusées. Ce qui nous a frappé au cours de cette longue trajectoire, c'est le fait que non seulement elles ont souffert, ces personnes, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme, mais qu'aussi, et cela a redoublé la souffrance, elles n'ont pas été reconnues. Et d'emblée, notre commission entend placer cette réparation au cœur même de son travail. Mais évidemment, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Le travail d'écoute correspond à une autre fonction, qui est une fonction non pas de consolation, de réparation, de reconnaissance, mais une fonction aussi cognitive. Il nous est apparu que les personnes victimes, à travers ce qu'elles avaient vécu, à travers ce qu'elles avaient souffert, étaient susceptibles de définir, de porter ce que nous avons appelé un savoir expérientiel, une expérience du mal, une expérience de la non-reconnaissance, avec une, souvent de la part des personnes que nous auditionnions, une capacité d'objectivation de leur propre situation que nous ne pouvions pas, faire entrer dans le cadre de notre réflexion. Fonction réparatrice, fonction cognitive, c'est autour de ces deux fonctions que nous avons organisé notre travail d'écoute. Évidemment, un travail d'écoute est une chose, il fallait aussi que, sur un plan plus traditionnel, nous nous acheminions vers un travail de recherche scientifique. Il a été mené par des équipes de recherche. Je pense en particulier à l'équipe de sociologie de l'INED, dirigée par Nathalie Bajos, qui nous a donné une très belle étude à partir d'une analyse, des témoignages, à partir d'entretiens passés avec les victimes, à partir aussi d'une enquête en population générale dont je vous donnerai tout à l'heure un certain nombre de chiffres, un certain nombre de statistiques propres peut-être à vous faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Et puis à côté de cette enquête, il en est une seconde que j'ai eu l'honneur de diriger, qui est une recherche sur les archives de l'Église depuis 1950 jusqu'en 2020, avec cette idée que et la conférence des évêques de France et la conférence des religieux et religieuses de France nous ont constamment soutenus dans notre travail, avec des éléments de négociation au tout début de la recherche, bien sûr. On n'ouvre pas des fonds secrets de la sorte, ou des fonds confidentiels de la sorte, mais ensuite avec une confiance qui nous a permis d'établir, je crois, avec précision, ce qui est arrivé à l'Église depuis les années 1950. Alors d'autres groupes de travail ont été constitués sur la théologie, sur la gouvernance de l'Église. Ce sont des points, si vous le voulez, que j'aborderai tout à l'heure. Je voudrais terminer en vous disant que ce travail qui nous a retenus avec une véritable intensité pendant 2 ans et demi a abouti à 2 types de résultats. Il y a d'une part des analyses. Sans doute nous poserez-vous tout à l'heure un certain nombre de questions sur ce que nous avons vu, sur ce que nous avons découvert et qui souvent était ignoré. Je voudrais vous dire 2 choses de ce point de vue. La première chose porte sur les dénombrements. Les chiffres sont accablants. 216 000 personnes, sur le fondement de l'analyse en population générale, ont déclaré, il y a maintenant quelques mois, avoir été abusées par des clercs ou des religieux dans le cadre de l'Église catholique depuis 1950. C'est un chiffre tout à fait important qui place l'Église, si l'on raisonne en termes d'institution, au deuxième plan dans la hiérarchie de l'horreur au cours de ces dernières années. D'autres institutions ont également été des foyers d'abus, des foyers de violence. Cela a été le cas bien davantage pour l'Église catholique. Là encore, je vous donnerai un certain nombre de statistiques si vous le souhaitez. Dénombrement au niveau des victimes, j'en parlais à l'instant, dénombrement au niveau des prêtres abuseurs. Si j'en crois les archives que j'ai étudiées, nous en serions à peu près, sur les 70 ans qui viennent de s'écouler, à 3000 prêtres abuseurs dont nous connaissons de manière très précise l'identité et la trajectoire. Puis s'ajoute à cela une réflexion sur l'engendrement. Sur l'engendrement de ces violences. Mais pourquoi ça? Pourquoi en Église, pourquoi ces prêtres et ces religieux ont-ils donné de ce point de vue dans cette trajectoire de la violence pédocriminelle? Alors il nous est apparu que tout cela a beaucoup à voir avec les mécanismes de fonctionnement de l'institution catholique, avec ses modes de gouvernance, avec la politique qu'elle a menée depuis 1950, la politique qu'elle a menée à l'égard des prêtres abuseurs dont elle connaissait les noms, dont elle saisissait les itinéraires et que pourtant elle laissait œuvrer dans leur dynamique du mal. Voilà des éléments qui nous sont venus et qui ont appelé, en effet, une série de préconisations qui portent sur trois éléments essentiels. Le premier élément porte sur la question de la gouvernance de l'Église. Il nous est apparu que pour que l'abus puisse être signalé, pour qu'il puisse être publicisé, il faudrait que l'Église fonctionne davantage comme un espace ouvert. Or, ce qui caractérise, depuis les années 1950, avec des évolutions que nous ne cherchons pas à nier, qui apparaissent très clairement à partir des années 1990-2000, c'est un pouvoir très fortement concentré et qui n'autorise pas précisément la circulation de la parole. Pouvoir concentré d'autant plus que le code de droit canonique fonctionne le plus souvent à partir d'une logique qui est en totale discordance avec les requêtes aujourd'hui d'une société démocratique. C'est donc un premier élément qui nous a frappés, sur lequel nous émettons un certain nombre de recommandations modifiées tendanciellement la gouvernance de l'Église. Deuxième élément, plus exigeant encore, réfléchir à la théologie. Il nous est apparu, François Hevé utilisait cette expression, employait cette expression tout à l'heure, que l'Église est souvent dans un entre-soi masculin et clérical. Il nous est apparu que de ce point de vue, probablement, le statut du prêtre sacralisé, autre Christ, alter Christus, conduisait très souvent à une position de suréminence cléricale, le fameux cléricalisme du pape XXIII, qui pouvait être un élément de facilitation de l'abus. Et là encore, nous avons incité l'institution ecclésiale à réfléchir sur cette théologie du sacerdoce, comme nous l'avons incité à réfléchir sur la théologie morale et en particulier sur la théologie de la sexualité. C'est un deuxième point, et puis le dernier point, c'est qu'il nous a semblé important pour la réparation des victimes, pour leur reconstitution dans l'identité qu'elles revendiquent, de demander à l'Église d'assumer sa responsabilité. Assumer sa responsabilité en faisant mémoire, en faisant reconnaissance de ce qui s'est passé, mais aussi sur le terrain juridique, la force réparatrice du droit, sur le terrain juridique, à assumer en tant qu'institution sa responsabilité dans ce qui s'est passé et qu'on peut qualifier de processus systémique, si l'on entend par systémique ce qui se traduit par des connivences allant bien au-delà d'une analyse de la pédocriminalité en termes simplement de déficience d'une psyché individuelle. Théologie, gouvernance, responsabilité, je crois que c'est autour de ces trois points que nous avons essayé de construire notre système de préconisation. Alors tout cela, et ce sera ma dernière phase, en espérant que ce travail portera ses fruits. Les victimes, évidemment, en attendent beaucoup, mais nous n'avons pas simplement pensé aux personnes victimes, même si, vous l'avez compris, elles étaient tout à fait centrales dans notre réflexion. Nous avons pensé aussi à la société française et, de ce point de vue, le président Sauvé, la commission dans son ensemble, a constaté qu'il y avait une véritable interrelation entre l'Église et la société, avec cette idée que peut-être, en guérissant les maux de la société, nous parviendrions à reconstruire un lien social qui serait probablement plus solide, une atmosphère sociale qui serait probablement plus apaisée. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre l'accueil que les ministres, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, ont réservé au travail de notre commission. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Portier. Je vais maintenant donner la parole à Véronique Margron. Véronique Margron, je rappelle que vous êtes religieuse dominicaine. Vous êtes aussi, surtout ici, la présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. C'est vous qui avez commandité ce rapport à la Commission Sauvé. Et on voudrait vous demander comment vous avez accueilli ces conclusions et ces préconisations.
Merci. Merci à tous d'être là dans ce temps si grave. Excusez-moi, mais je pense que la fatigue commence à me gagner. Ce jour est très particulier parce que c'est à la fois un jour de vérité et nous savons tous ici ce que c'est que chercher la vérité au regard de l'Évangile et de la vérité qui rendra libre. Et en même temps, cette vérité pèse tellement lourd que c'est aussi un jour de deuil. Et c'est d'autant plus un jour de deuil qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de visages, d'histoires bien singulières, bien uniques, de victimes, avec en plus tous leurs proches. Et nous savons ce qu'il en est, un peu au moins des conséquences sur les proches de ces drames et de ces crimes. Donc c'est un sentiment très mêlé. Un sentiment d'immense gratitude envers le travail de la Commission Sauvé, de Philippe Portier, de toutes les équipes. Ce travail qui, comme le disait François Deveau dans sa colère, mais cette colère avait des accents de vérité ce matin aussi, fait plonger dans les enfers et en tout cas approcher des enfers les membres de la Commission. Comme d'une manière ou d'une autre, toutes celles et tous ceux qui se risquent à écouter ces récits de vie brisées, parfois ravagées, parfois détruites. Donc c'est ce mélange des sentiments que je voudrais souligner en commençant. La deuxième chose, c'est que je pense que, sans user de grands mots, parce que vraiment ça n'est pas le jour, il y a sans doute quelque chose d'historique dans ce qui s'est passé ce matin, en tout cas d'historique pour l'Église de France. Imaginez-vous, c'est une commission indépendante qui a dit à l'Église qui était devant elle ce qu'il en a été, en tout cas au plus proche de la réalité qu'il était possible d'approcher, du pire. Cela, c'est historique. À lire le rapport, il est bien clair que personne de nous, quelles que soient ses compétences, quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit son intégrité, n'aurait pu mener ce travail à l'intérieur. Et cela, c'est historique, que sur un sujet si lourd, le plus lourd qu'il soit, qui est la trahison de l'Église, ce soit une commission indépendante que nous avons voulu, et donc nous ne pouvons d'autant moins en contester les conclusions. C'est pas comme si, je sais pas moi, une institution extérieure, le ministère de la Justice, l'État, s'était dit non mais on va se mêler des affaires de l'Église. Nous pourrions toujours dire ah non mais c'est parce qu'ils nous aiment pas, c'est parce que ceci. Non, là c'est nous qui l'avons voulu, et c'est cette commission là qui dit ce qu'il en est. Vous savez, cela, c'est à la fois terrible et grand. C'est terrible dans les conclusions, et terrible est un mot bien faible. Mais c'est grand. C'est grand que cette commission ait pu mener son travail à terme et que tout ce qu'elle a écrit soit aujourd'hui public. Que tout soit appelé ici à la transparence nécessaire. dans le rapport, Philippe Portier parle à un moment justement de ce passage d'une église, d'une société, d'une église de la réputation à une société de la réputation, à une société du droit et de la transparence. Eh bien, je veux croire de toutes mes forces, ou des forces qui me restent, que ce matin, c'est ce qui s'est passé pour l'Église d'entrer dans la société du droit et de la transparence. Et c'est sans doute ça le premier lieu de l'espérance. De cette espérance qui, soyons honnêtes, pour aujourd'hui, est tout de même assez ténue, sauf à nous raconter des balivernes. Car accuser le choc, de découvrir, sachant que nous ne saurons jamais tout, de découvrir un tel désastre, de découvrir une telle terre saccagée, et saccagée par des membres de l'Église, saccagée par la faillite des institutions qui devaient protéger, signaler. Institutions qui, parfois, vous le verrez dans le rapport, nous le savons en écoutant tant et tant de victimes, ces institutions ont parfois même été complices et parfois complices de façon active. Ces institutions, ce sont les nôtres, ce sont les miennes. Et cela, ça a quelque chose aujourd'hui d'irreprésentable. Et pourtant, je sais que telle est la réalité. Mais, et c'est mon troisième point, il est irreprésentable de se dire que la maison de Dieu, qui se nomme ainsi, l'Église, a été le lieu de la dévastation. Ça, c'est irreprésentable. Et pourtant, c'est cela. De la vie religieuse, l'Église diocésaine, les églises diocésaines, qui ne sont là pour rien d'autre que de témoigner du Dieu fait chair, pour rien d'autre que d'annoncer de la vie aux plus fragiles, de la sécurité, du repos aux plus fragiles, a été le lieu de la mort. Et à reparler de 200 000, voire de 300 000, à vrai dire, à partir de ce moment-là, je pense que les chiffres n'ont plus de sens. C'est de toute manière dire qu'il s'agit de crimes massifs. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe à l'instant ou ce matin, si vous avez écouté dans vos cœurs et dans vos têtes, mais dans la mienne, il y a comme une explosion. Parce que comment ces termes peuvent-ils aller ensemble? Se dire que dans des institutions chrétiennes, qui sont là uniquement pour être à la suite du Christ et pour rendre possible pour d'autres cette suite de celui qui est doux et humble de cœur, se sont commis des crimes massifs. Voilà. Je pense que il est bien difficile de s'en remettre. Je ne sais d'ailleurs même pas s'il faut se remettre. De cela, il faut travailler, bien évidemment, il faut agir, et là est ma responsabilité, notre responsabilité, à nous tous d'une façon ou d'une autre, ici et ailleurs. Mais il faut laisser cette déflagration se produire et ne pas aller trop vite. Ah bon, mais maintenant ça va, quoi, c'est dur, mais bon, cherchons les solutions. Pour chercher les solutions, il faut d'abord descendre. Les victimes nous disent souvent, mais nous avons été réduits à l'état d'objet par nos agresseurs, d'une autre façon, par l'institution qui n'a rien entendu, qui parfois en a rajouté. Alors vous, Église, mais descendez donc un peu, diminuez donc un peu. Si devant le rapport que nous avons reçu ce matin, nous ne descendons pas un peu, voire beaucoup, ce serait décidément que nous n'avons rien compris. Et ce serait, je crois, une tragédie supplémentaire, une trahison supplémentaire des personnes victimes, mais de vous, de l'Église tout entière, du peuple de Dieu, de chacun dans ce peuple de Dieu, et du Christ ô combien. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et donc l'acte d'espérance, pour moi, dénu, et je terminerai ainsi, je crois, il me reste 45 secondes, oh, c'est fantastique. L'acte d'espérance, encore une fois, dénu de ce jour, c'est ce que je vous disais, que cette vérité se soit faite sur le lieu le pire, en public, en toute transparence du travail de cette commission. L'autre lieu d'espérance, c'est que vous soyez là, que vous vous sentiez concerné par ce qui arrive, car l'Église peut bien penser dans ses institutions, dans ses responsables, quels qu'ils soient, peut bien désirer changer, peut même bien faire des réformes, mais Dieu sait qu'elle en a un certain nombre à faire, s'il n'y a pas de changement de culture de nous tous, de prise de responsabilité, d'autres façons de se situer, que le pape François nomme de ses voeux la synodalité, ou que nous la nommions autrement, les choses ne se feront pas, car on ne décrète pas un changement, nous le savons tous. On l'accompagne dans le meilleur des cas. Et il ne se fait pas en un jour. Et mon troisième lieu d'espérance, c'est qu'en effet, la commission Sauvée a été capable de faire des recommandations à l'Église. Je l'évoquais ce matin. Ces recommandations étaient demandées dans la lettre de mission. Mais face au constat, quand même, effroyable, dont je suppose qu'aucun des membres de la commission ne pouvait l'imaginer en commençant à travailler, pas plus que nous, les mandants, bien évidemment, avoir réussi à faire des recommandations, et des recommandations performantes ou performatives, c'est-à-dire qui sont dans l'ordre du réel, qui ne sont pas des vœux pieux qui planeraient au-dessus de nous, cela, c'est magnifique au cœur de ce désastre. Ça, c'est magnifique. Donc maintenant, à nous, responsables, mais à nous tous aussi, de nous saisir de ces recommandations, qu'il s'agisse en effet de la gouvernance, de la culture ecclésiale, de cette question du silence, du secret, qu'il s'agisse de la formation, vous êtes ici dans les facultés jésuites, qu'il s'agisse de l'accompagnement des vocations, qu'il s'agisse en effet des questions liées à la réparation, tout cela nous appartient à tous. Et vraiment, je remercie infiniment la commission d'avoir réussi ce travail, de pouvoir donner des recommandations concrètes, qui certaines vont bien sûr demander du travail et du temps. D'autres peuvent peut-être aller, je ne sais si c'est plus vite car il est si tard, mais en tout cas, peuvent peut-être être réalisées dans des délais plus brefs. Et puis mon dernier mot, c'est vraiment de vous dire que la réparation, d'une certaine façon, nous savons pour chacune de nos vies, ça n'existe pas. Personne ne répare le mal. Personne ne rend à un enfant, à un adulte, dont l'enfance intime, notre enfance à chacun d'entre nous, en nous, a été volée. Personne ne lui rend cela. Personne ne rend l'innocence. Personne ne rend la légèreté à des existences qui, en une seconde, sont passées à l'âge adulte ou, au contraire, se sont comme figées à l'enfance. Tant de personnes victimes à 80 ans, 90 ans peuvent dire « mais je suis toujours l'enfant de 10 ans ». Donc ça ne se répare pas. Mais je pense que ça rend d'autant plus responsable de réparer quand même. C'est cela le paradoxe. C'est d'entendre cela. Et Jean-Marc Sauvé le disait ce matin à propos de la réparation. Donc la réparation n'est pas là pour qu'on tourne la page. Elle est là pour qu'enfin nous fassions justice. Et comme le dit l'archevêque de Strasbourg, c'est bien tard, mais mieux vaut tard que jamais, car toutes ces victimes sont vivantes aujourd'hui, présentes. Et puis il y a ce qu'a dit fortement Jean-Marc Sauvé ce matin, il y a le fait que ces questions, en particulier liées à cette systémique, de ce qui a rendu possible, non pas l'abus comme tel, mais ce qui a rendu possible la perduration des abus, à ces chiffres aussi apocalyptiques. J'ai perdu mon fil. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Donc, il a bien insisté pour nous dire que voilà, cette systémique, elle est toujours là d'une façon ou d'une autre. Elle a évolué, bien sûr. Philippe Portier peut en parler avec tant de précision pendant des heures et des heures, mais elle a évolué au cours des 70 ans. Ô combien, évidemment, la société française a tellement évolué. Mais ce qui est à entendre, c'est qu'elle est toujours là. Et que donc nous ne sommes pas seulement en train de nous dire qu'il nous faut enfin faire justice à des victimes présentes, victimes de crimes du passé, mais qu'il nous faut aussi en même temps prendre enfin soin du présent pour que de tels malheurs, de tels crimes, de tels scandales ne puissent continuer. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, Sœur Véronique Margot. Et nous poursuivons cette soirée des mardis d'éthique publique au Centre Sèvres avec nos deux invités. Nous parlons de la SIAZ, dont le rapport a été rendu ce matin, Véronique Marton et Philippe Portier. Je voudrais leur poser quelques questions avant de donner la parole à la salle. Mais à la salle. Philippe Portier, je voudrais que vous reveniez peut-être sur cette expression de processus systémique. Est-ce qu'on parle de système parce qu'il y a cette ampleur, ce nombre, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui font le système ?
Le processus systémique ne renvoie pas simplement au fait qu'on serait confronté à ce qu'on a pu appeler un crime de masse. L'expression a souvent été employée, ce qui renverrait à un élément strictement quantitatif. Dans l'expression systémisme, on renvoie aussi à du qualitatif. Alors, l'idée est d'abord la suivante. Il faut écarter le fait ou l'idée suivant laquelle l'abus sexuel relèverait simplement d'une déficience de la psyché individuelle, vous voyez, des actes singuliers produits par une conscience morale défaillante, par un métabolisme psychique qui ne fonctionnerait plus. Il y a cela, bien sûr, parmi ceux qui osent passer à l'acte. Mais le processus systémique renvoie à un mécanisme bien plus complexe qu'on peut appeler collectif. Première idée, dans le systémisme, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes de connivence entre des acteurs, entre des institutions, qui permettent que l'abus, qui permettent que la psyché déficiente puisse passer à l'acte. Alors, connivence, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, entre l'abuseur, certes, mais aussi son supérieur hiérarchique, mais encore l'institution diocésaine ou l'institut religieux, mais parfois aussi, et cela nous a évidemment tout à fait surpris dans notre France laïque, connivence de l'État à travers ses autorités, et même parfois connivence de la famille. Alors, quand on parle de processus systémique, évidemment, nous insistons sur ce système de connivence, en plaçant toutefois au premier plan de notre analyse la responsabilité des supérieurs hiérarchiques à l'intérieur de l'Église, qui a été proprement massive, les autres institutions intervenant, comme vous le devinez, à titre tout de même subsidiaire, voire exceptionnel. Premier élément. Et puis, dans la définition de processus systémique, il y a autre chose. Il ne suffit pas de dire « système de connivence », il faut encore le décrire. Et nous le décrivons, je le décrirai de la manière suivante, il y a processus systémique lorsque celui qui sait qu'un mal se produit, lorsque celui qui sait qu'un mal se produit ne fait rien pour l'entraver, et fait plus même, positivement, fait tout pour le dissimuler. Et ce qui apparaît très clairement dans ce que nous avons vu dans les archives, en particulier dans les témoignages des personnes victimes
titre subsidiaire dans les archives, c'est à titre principal, c'est précisément cette idée que la connivence se déploie en dissimulation des situations de violence, en dissimulation volontaire des situations d'abus. Et voilà, je crois, ce qui permet de théoriser ce concept qui est souvent flou et employé sans grande précision de processus systémique.
Alors, processus systémique, mais par réseau ?
Il peut y avoir des réseaux. Il peut même y avoir ce que nous appelons maladroitement dans le rapport des clusters. C'est-à-dire ces lieux d'effervescence violente, d'intensité abusive, comme il en a existé, par exemple, au petit séminaire de Chavagnes, dans quelques petits séminaires que nous avons examinés, où se mettent en place, là, des systèmes de connivence organisée. À Chavagnes, par exemple, je pense ici aux années 60, c'est pas si loin les années 60 pour beaucoup d'entre nous, sur 20 professeurs, 11, 12 peut-être, étaient impliqués dans des situations de pédophilie. Et là, il y a réseau. Réseau, disiez-vous, à l'intérieur d'établissements. Mais nous avons vu des réseaux se constituer à l'extérieur des établissements où les premiers abus s'étaient constitués. Avec le fait que des prêtres abuseurs étaient déplacés vers d'autres instituts, vers d'autres diocèses, et continuaient, là, à perpétrer leurs abus, souvent en effet avec des réseaux de prêtres qui auparavant, avaient fait leurs études dans les internats d'où provenaient les nouveaux abuseurs. Et là, on peut dire qu'en effet, il y a non seulement système, mais il y a aussi organisation réticulaire de l'abus. Et vous voyez, des éléments de ce type nous renvoient au fait qu'il y a eu des dysfonctionnements extrêmement graves. Ce que je viens de vous décrire là, pour le systémisme, vaut très tardivement, jusqu'à la période immédiatement contemporaine, avec une rupture dans les années 2010-2015, tout de même. Ce que je viens de vous dire sur la question des réseaux, nous l'avons vu à l'œuvre de manière très nette jusqu'au début des années 1970.
Véronique Margon, vous avez évoqué la trahison de l'Église. Pourquoi est-ce que l'institution ecclésiale a-t-elle eu autant de difficultés à nommer ce mal et à travailler à l'endiguer ?
Si je savais vous répondre, déjà, on aurait fait un pas. Nous avons des éléments, c'est-à-dire que je pense qu'un des éléments, c'est la confusion des genres. Le fait que l'Église ait tant de mal à nommer un chat, alors que je sache, la Bible, elle, s'est nommée un chat. Un crime n'est pas de l'ordre du péché. C'est un crime. Donc si on commence à penser sous la catégorie du péché, où nous mêlons, nous le savons bien, beaucoup, 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 beaucoup de choses, plus ou moins graves, évidemment, nous ne pouvons plus penser avec justesse. Donc ça participe à l'effacement des consciences, à une forme d'aveuglement. Cette façon comme cela que nous avons, en quelque sorte, si j'ose dire, de ramener à nous, quoi. Enfin, un crime, ça relève de la société française, de l'État, de la justice. Ça ne se résout pas en famille, on ne résout pas un crime en famille. On n'en a ni les moyens, ni les compétences. Donc cela, ça a participé. Évidemment, la position sacralisée à l'excès, comme dit le rapport de la CIAS, du prêtre ou du religieux, d'ailleurs parfois de la religieuse aussi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, toutes ces positions qui mettent en surplomb, et donc qui là aussi font qu'il n'y a plus de vigilance qui s'exerce, puisque par définition, mais que peut-il vous arriver de la part d'un homme de Dieu ? Que du bien, évidemment, que du bien, pour vous-même, vos enfants, enfin, forcément que du bien. Donc cette position-là, quand elle est pensée comme ça, ainsi, à l'excès, dans ce surplomb, en plus dans ce surplomb qui est au nom de Dieu, et donc qui lui donne un caractère sacré, quoi, participe à cette tragédie, et je pense à participer beaucoup à l'incapacité de l'Église à nommer les choses, à y faire face, et parfois même, du coup, elle s'en est en effet rendu éminemment complice. Pour vous prendre, nous voyons, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture du rapport, mais déjà à l'écoute de victimes, c'est que le, et le en particulier toute la partie de Philippe Portier le dit très bien, c'est qu'en fin de compte, c'est ce qui fait vivre notre foi qui a été dévoyée. Et cela, c'est vertigineux. À dire, c'est la parole de Dieu manipulée au service de l'abus. C'est le rapport à l'autorité. Nous savons combien le rapport à... Enfin, l'autorité, c'est là, c'est fait pour autoriser à grandir, pour faire partir. Et cette même autorité a accaparé, violenté, violé. C'est les sacrements. Combien de victimes, ça c'est un effroi, ont été victimes pendant les sacrements, ou juste avant, juste après. Mais c'est inimaginable, et pourtant c'est le réel. Vous lirez dans... Vraiment, je ne peux que vous y plus qu'inviter. Non seulement dans le rapport de la SIAZ, mais dans cette annexe si importante qui s'appelle de victimes à témoins, donc qui sont des verbatimes de victimes, vous verrez ce que disent des victimes de ces moments-là des sacrements. Donc c'est cela qui est très impressionnant, c'est de voir que c'est ce qui fait le cœur de la foi, de ce qui fait vivre la foi, qui s'est trouvé dévoyé au service des abus. Donc je pense que ça aussi, ça a participé ô combien à ce qu'en fin de compte, l'Église soit aveuglée. Puis après, il y a eu des phénomènes conjoncturels, si on pense à des situations des années plus récentes, des années 80, je n'ose dire à nos jours, mais en tout cas à 80, c'est-à-dire tous les... ce qu'on a pu appeler, en y croyant sincèrement, au renouveau de l'Église, avec des grands groupes de religieux, par exemple, hein, jeunes, tout ce qu'on veut, dynamique, et où du coup, mais personne ne s'est soucié de comment était-il gouverné, comment était-il formé, quelle était la régulation du pouvoir, y avait-il ce qui est si cher à la tradition religieuse, où il y a même dans la tradition religieuse une forme de synodalité entre le rôle du supérieur, de la supérieure, son conseil, le chapitre. Là, il y a des instances qui, en principe, si elles fonctionnent, sont loin d'être parfaitement efficaces, c'est rien de le dire. Hein. Mais quand même, ont leur utilité. Mais personne ne s'est posé cette question, comme si, en fin de compte, nous-mêmes, nous étions aveuglés par la réussite. Et ça, c'est une vraie question pour moi aujourd'hui. La réussite aveugle nos sociétés, ou une idée de la réussite, alors même que nous souhaitons de la réussite à chacun, mais il est une réussite qui a tragiquement participé, pas de façon volontaire, évidemment, mais aux abus, en n'ayant aucune vigilance sur ces lieux.
Je vais vous poser une dernière question, Philippe Portier. Est-ce que l'Église catholique d'aujourd'hui, cette Église qui a commandé ce rapport à la SIAZ, est-ce que cette Église est responsable de ces crimes de masse dont vous nous avez parlé, dont l'Église s'est montrée complice? Je vais vous demander de répondre en 2 minutes.
Oui, je réponds en 2 minutes. En vous disant oui, elle est responsable, précisément pour le motif que je vous disais tout à l'heure, elle savait et ne faisait rien. Elle savait et ne faisait rien, ce qui caractérisait d'une certaine manière sa stratégie. On peut employer ce terme employé au management ou à la guerre, déployer sa stratégie en deux temps. D'une part, elle faisait tout pour dissimuler la culpabilité de celui qui avait organisé l'abus, souvent organisé l'abus, et d'autre part, elle ne prenait jamais en compte la souffrance, l'existence même de la victime. Alors, peut-être me permettrai-je d'ajouter, si vous voulez,
non pas pour atténuer la part de responsabilité, mais pour essayer de comprendre le contexte de l'époque. Car la lettre de mission que la COREF et la Conférence des évêques de France ont adressée à Jean-Marc Sauvé en novembre 2018 nous demandait de prendre en compte le contexte. Les années 50, les années 60, du point de vue de l'outillage intellectuel de l'Église, ne sont pas les années 2010-2020. Et en particulier, on a vu beaucoup évoluer la notion de scandale. Qu'est-ce qu'un scandale ? Aujourd'hui, le scandale, c'est ce qui porte atteinte à la dignité d'un être. Et Véronique Margron l'a parfaitement dit tout à l'heure, il est insupportable de voir un enfant perdre sa dignité, son identité, sa légèreté pour la vie. Il se trouve que l'Église a développé une autre théologie du scandale qui remonte au XIIIe siècle. Qui remonte au XIIIe siècle et qui voit le scandale d'abord comme ce qui porte atteinte à l'honorabilité de l'Église et à la respectabilité de ses membres, et en particulier des plus nobles d'entre eux, les prêtres. Et on voit bien dans les textes que nous avons analysés que toute la stratégie de l'Église est portée par cette idéologie-là, cette idée qu'il faut tout faire pour éviter que l'Église ne soit jetée à l'opprobre de l'opinion publique. Vous vous rendez compte que nous sommes là dans ce que Véronique Margron appelait tout à l'heure une société de l'honneur qui est en profond décalage avec ce que nous attendons, nous, de manière naturelle, et j'espère de manière éternelle, une société du droit, de la transparence qui place la dignité du sujet au cœur de ses préoccupations. Ça n'était pas le cas, manifestement. Dans les années 1950-1960, certains étaient déjà dans la société du droit, dans la société du respect des victimes. L'Église demeurait attachée à une théologie d'un autre âge, celle où comptait davantage l'honneur de l'institution, davantage que la dignité de ses petits, que la dignité de ses plus petits membres.
Et l'Église de 2021 doit payer pour les crimes de cette Église des années 50-60 ?
Alors, Véronique Margron le dirait mieux que moi, le mot « payer » est un mot qu'employait ce matin François Devaux, vous savez, le dirigeant, créateur de la parole libérée. Il a terminé son allocution en disant « vous devez payer ». Alors, « vous devez payer », oui, il y a évidemment l'idée d'une responsabilité qui doit s'inscrire dans l'histoire, que l'Église d'aujourd'hui prenne en compte ce qu'ont fait les dignitaires et souvent les membres de l'Église d'hier, oui, probablement, non pas au titre d'une responsabilité pénale ou civile, mais d'une responsabilité morale dont elle doit porter aujourd'hui la charge. Nous avons dans le rapport développé ce thème en parlant de la nécessité d'un mémorial qui ferait reconnaissance des victimes. Mais nous y ajoutons immédiatement un codicille qui est un codicille pour le moment actuel. Nous avons comme recommandation préconisé que puisse s'appliquer en Église ce qu'on appelle dans le droit civil la responsabilité sans faute de l'institution. Cette idée que l'institution doit en effet se montrer responsable juridiquement dès lors que l'un de ses membres se trouve dans la situation de commettre des abus sexuels. Et de ce point de vue, c'est à une évolution du droit que nous appelons, qui prendrait en compte la responsabilité bien au-delà, la responsabilité de l'institution, bien au-delà de la culpabilité de ses membres prise à titre individuel. L'institution en tant que telle, pour aujourd'hui.
Eh bien, on s'approche de la toute fin de cette rencontre. Je vais demander à Jean-Luc Poutier de conclure.
Conclure un travail qui, à l'évidence, ne fait que commencer, ça n'aurait pas grand sens. Je me contenterai de soulever deux questions qui sont l'expression, en fait, de ma part, d'une incompréhension. Dans la continuité de ce que Philippe Portier vient d'évoquer, à partir d'une remarque de Véronique Margron, qui a dit que ce jour marquait l'entrée de l'Église dans la société du droit, et Philippe Portier avait dit auparavant que le code de droit canonique était en totale discordance avec les requêtes d'une société démocratique, je me demande, en tant qu'historien, en essayant d'être historien, pourquoi l'Église continue aujourd'hui d'asseoir sa singularité ou son exceptionnalité dans le monde tel qu'il est sur un héritage médiéval qui a pu connaître à certaines époques des moments de belle construction juridique, mais qui est aujourd'hui une construction totalement vermoulue, même révisée en 1917 ou 1983. Pourquoi l'Église ne rejoint pas le droit commun des sociétés et ne soumettait pas ses statuts aux règles qui sont celles de toutes les sociétés démocratiques? Il ne s'agit pas d'arranger le code de droit canonique à la marge. Il faut peut-être simplement se demander s'il n'est pas nécessaire de passer à autre chose et d'amputer le membre gangréné. Ma deuxième remarque, c'est à propos de ce que Philippe a dit sur l'interrelation entre l'Église et la société. J'ai été éduqué dans un collège de pères maristes dans les années 60, où je n'ai pas eu à connaître d'agression ou de sévices sexuels, parfois quelques caresses un peu appuyées que nous prendrons pour des manifestations de tendresse ou d'affection. En revanche, les sévices physiques, corporels, d'humiliation étaient permanents. De la part de prêtres dont il était évident pour certains qu'ils étaient déséquilibrés. Et ces sévices, ils étaient approuvés en famille, quand ils n'étaient pas doublés en famille. Et pour ceux qui ne se soumettaient pas, il y avait encore une punition supérieure. On les envoyait à 50 km de Besançon, à Dole, dans un collège jésuite qui passait pour une maison de redressement. Donc c'est toute la société qui est en cause. C'est pas seulement l'Église. Parce que si certains se sont crus permis de commettre des actes encore plus abominables que les violences physiques que nous subissions, certains en riaient, d'autres en souffraient, en tout cas c'était des humiliations permanentes, c'est parce qu'ils savaient qu'au fond, la réponse sociale, et Philippe a évoqué la responsabilité de l'État, la réponse sociale, la réponse des familles, ne serait pas une réponse qui mènerait à leur propre perte. Et donc, une interrogation sur les normes éducatives qui ont été en cours à cette époque-là, sur l'héritage qu'elles ont laissé, sur la place des enfants dans notre société d'aujourd'hui, me semble une des pistes de réflexion qu'ouvre ce rapport et qu'il est peut-être urgent de suivre.
Et bien voilà, c'est comme ça que s'achève pour RCF cette soirée des mardis d'éthique publique consacrée au rapport de la CIAS sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. Merci à Véronique Margon et à Philippe Portier qui étaient nos invités. Puis merci aussi à François Heuvet et Jean-Luc Poutier qui ont préparé cette rencontre.
Et merci à Stéphanie Gallet d'avoir animé cette première partie de la soirée. Nous avons maintenant, rassurez-vous, un temps de questions. Les contraintes de la radio obligeaient certains discours qui pouvaient sembler équivoques pour ceux qui sont présents dans cette salle et dans la salle voisine aussi. Deux micros vont circuler. Voilà, un ou deux. Un micro. Alors, un micro va circuler, donc merci de lever la main. Comme de tradition, nous prenons deux ou trois questions ensemble, de façon à aussi gagner un petit peu de temps. Voilà, donc vous êtes invité. Voilà, il y a une question, une main qui se lève dans le fond, un pull vert gris clair. Brice, levez bien la main.
Bonsoir, merci aux intervenants. Moi, ma question, porte sur le problème de savoir si ce rapport qui concerne l'Église de France, hélas, se situe dans le prolongement de rapports et de phénomènes qui ont eu lieu dans d'autres pays. Donc, comment prendre en considération ces drames au niveau mondial, le Canada, l'Irlande, enfin hélas, il y a beaucoup de pays. Est-ce que ce n'est pas le préalable à une réflexion d'ensemble sur le statut de l'Église, bien au-delà du cadre français?
Merci. Merci. Alors, d'autres questions? Alors, au milieu, voilà, dame avec un pull à verre bleu. Voilà, pour être repéré.
Bonsoir. Ma question porte sur les conseils que vous pourriez nous donner dans cette phase d'encaissement de tout ce qu'on découvre, l'ampleur, tout ce qui a été dit ce soir. En termes de vocabulaire, on a parlé d'abus, on a parlé de violence, on a parlé de crimes sexuels dans l'Église. Est-ce que des échos des victimes de travail qui a été fait, il y a des recommandations que vous pourriez nous partager sur la manière de parler de ce désastre?
Merci. Y a-t-il une troisième question? C'est la parole. Oui, juste derrière.
Oui, bonsoir. Alors moi j'appuie la question de monsieur derrière avec le pullover vert, je crois.
Gris clair.
C'est pour appuyer cette question, quelle est l'autonomie de l'Église de France à instaurer des changements, à décider ces changements par rapport à l'Église universelle? Quelle est l'autonomie qu'elle voudra se donner? Voilà.
Merci. Alors peut-être Philippe Portier pour la première question sur les autres pays. Et ensuite, je laisserai la parole peut-être à Véronique, éventuellement sur d'autres questions. Mais...
Je vous dirai aussi tout à l'heure que nous avons eu un débat sur le lexique dont vous parliez, madame, au sein de la SIAZ, et les choses ont évolué à travers le temps. Nous n'écrivions pas les mêmes choses, nous ne décrivions pas les mêmes phénomènes avec les mêmes mots il y a 2 ans et demi qu'aujourd'hui. Si vous voulez, je répondrai à cette question tout à l'heure, après que Véronique aura pris la parole. Pour ce qui concerne la première et la troisième question, en somme, nous sommes confrontés ici, de manière assez typique, à un phénomène de globalisation. Cette idée que la France n'est pas un isolat et qu'elle agit dans le cadre d'un système mondial, un système mondial qui vaut globalement, mais qui vaut aussi pour le catholicisme. Il se trouve que le catholicisme français a été percuté par ce qui se passait à l'étranger. Vous savez qu'aux États-Unis, l'inquiétude au sujet de la pédocriminalité naît d'un rapport Doyle dès les années 1980. Et les évêques se montrent, après avoir beaucoup hésité, se montrent finalement assez réceptifs au début des années 90 déjà. Il faut pour nous attendre quelques années avant que l'effet international ne vienne être reçu, et reçu encore timidement à la fin des années 90 par l'Église en France. Alors c'est un premier élément pour répondre à votre question. Quand on parle de globalisation, il y a des réseaux horizontaux. Et on voit bien dans ce que je viens de dire ici qu'il existe des effets des politiques américaines, des politiques irlandaises, des politiques allemandes sur la catholicité française. Et on voit que tout cela fonctionne de manière horizontale. C'est de nation à nation que se manifestent les effets des politiques mises en œuvre à l'étranger. Mais quand on parle de globalisation pour l'Église catholique, il faut toujours envisager l'aspect hiérarchique des choses. Ce qui est tout à fait frappant quand on étudie les archives, y compris les archives immédiatement contemporaines, c'est le fait que la structure verticale de l'Église n'a jamais été remise en cause, que tout vient de Rome et tout y retourne, beaucoup, avec une marge d'autonomie sans doute pour les Églises nationales, mais toujours sous le contrôle de ce que décide, en dépit de sa théologie du polyèdre, le pontife romain. Cela est vraiment frappant, vous voyez, quand vous vous êtes plongé dans les textes entre Rome et la France, vous apercevez que la globalisation, elle s'énonce de manière verticale. Mais que veut Rome? Qu'attend-il?
comment Rome va-t-il remettre en cause les normes du droit canonique? Et comment ce droit canonique, nous allons, une fois qu'il aura été révisé par Rome, l'adapter à la société française? C'est toujours en termes d'adaptation, davantage qu'en termes de création, que se constituent les politiques nationales, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que nous avons vu à travers les archives, ce que nous pouvions ressentir. Déjà, la structure de l'Église reste une structure verticale, de manière très nette. Cela apparaît très clairement pour ce qui concerne les politiques de l'abus. Donc, pour répondre à votre question, deux façons d'envisager la globalisation, les répercussions sur le territoire français des politiques menées par des épiscopats étrangers, mais aussi l'attente d'une politique venue de Rome qui viendrait bouleverser nos pratiques et nos doctrines.
J'ajouterais juste deux points à ces mêmes questions. À la fois, l'Église catholique est très hiérarchique et en même temps, elle a quelque chose de particulier qui est que, en fin de compte, depuis Vatican II, elle est en même temps très organisée de façon diocésaine. On pouvait penser que c'était une belle chose en termes d'incarnation, de se mettre au pas des vrais gens, quoi, hein, d'inculturation en quelque sorte. Sauf que peut-être qu'un des points aveugles, j'en réfère aux théologiens qui travailleront, si ça n'est déjà fait, de cela, c'est d'avoir donné un pouvoir extrêmement important aux évêques locaux, en faisant, je n'ose dire des petits papes, mais en tout cas en leur donnant une autorité très importante. Ce qui fait que, aujourd'hui, par exemple, le président de la Conférence des évêques de France, mais pas seulement des évêques de France, hein, des évêques de partout, n'a aucune autorité particulière, en tout cas il n'a pas d'autorité hiérarchique, sur les évêques de France. Il a une autorité morale, de par son élection et son travail, mais il n'a pas d'autorité hiérarchique. Seul, Rome a une autorité hiérarchique. Donc il y a en même temps que ce rapport hiérarchique, que cette place hiérarchique, il y a une sorte de fragilisation de la hiérarchie. Vous voyez, parce que en même temps, c'est comme si là où la hiérarchie peut-être aurait pu ou pourrait fonctionner, on se dit, mais quand même, là, il y en a un qui va taper sur la table en disant que ça, c'est pas possible. Et bien, en fin de compte, le pouvoir local fait que ça n'est pas si simple. Parce qu'évidemment, comme le disait Philippe, si à chaque fois, il faut remonter à Rome, et nous le voyons, y compris dans des dossiers que nous envoyons à Rome dans des formes de signalement, en quelque sorte. Combien c'est compliqué, pas de les envoyer, mais comment imaginer que l'autorité romaine puisse, dans des délais raisonnables, instruire, en plus instruire avec expertise, toutes ces situations qui, derrière, révèlent des drames. Donc, il y a une forme d'impuissance en fin de compte, par-dessus le marché, qui est organisé, enfin, qui ne s'est pas organisé pour être organisé, mais qui, en fin de compte, qui a été mise en place de cette façon. Et puis l'autre chose que je dirais sur ce même point, c'est que il y a malgré tout, si elle le veut bien, une vraie latitude à l'Église de France, qu'il s'agisse des instituts religieux, qu'il s'agisse des églises diocésaines. Alors évidemment, s'il s'agit de la réforme du droit canonique, c'est plus complexe. Bon. Mais tout ce qui concerne la réparation, tout ce qui concerne l'écoute des victimes, tout ce qui concerne pouvoir faire appel à des structures indépendantes, tout ce qui concerne la formation, mais tout cela dépend en immense partie de nous-mêmes ici. Sauf évidemment si nous changeons totalement la ratio des séminaristes, par exemple, là ça ne va pas aller. Mais sinon, l'ajuster, l'adapter, dire mais non, nous souhaitons nous renforcer telle et telle chose, en sciences humaines, en connaissance de la sexualité, en connaissance de ce qu'il en est, des drames, des enfants ou des adultes victimes, mais rien, absolument rien, ne nous empêche de faire cela. Donc, voilà, il y a à la fois une vraie difficulté, hein, mais qui est plus peut-être due à une culture, en effet, que, comme le disait Philippe à l'instant, qui est plus une culture sous la modalité de l'adaptation que de la création. Mais vraiment, si le rapport Sauvé n'invite pas à la création, ce serait assez grave.
Merci. Reprenons une autre série.
Je peux me permettre, François, je consonne tout à fait avec ce que vient de dire Véronique. J'avais essayé de placer en effet l'analyse du cas français dans un système global où l'on voit intervenir deux types d'acteurs, des acteurs horizontaux, les autres épiscopats en particulier, et puis d'autre part l'acteur romain. Mais on voit bien quand on compare les politiques américaines, canadiennes, françaises, qu'il peut y avoir ce qu'on appellerait en sciences politiques du benchmarking, on compare les expériences, mais avec de la part des épiscopats nationaux de véritables singularités tout de même. Ce qui permet précisément d'avoir une politique d'adaptation des normes au niveau national, en prenant en compte à la fois la culture de la société dans laquelle l'épiscopat se trouve embarqué, en prenant en compte les routines qui ont été développées dans les églises en question, en prenant en compte l'état du droit aussi, du droit étatique en particulier, qui vient encadrer les politiques ecclésiales dans les pays dont il s'agit. Donc, vous voyez, c'est un système extrêmement complexe, je crois, que d'étudier l'Église dans le système global. Il y a à la fois des possibilités d'adaptation, sans doute de création. Je pense que Véronique a raison, la différence des politiques le montre, mais dans un système qui reste marqué à la fois par des comparaisons internationales et par un système vertical à l'intérieur de l'Église. Beaucoup de choses sont possibles, sous la tutelle, cependant, de ce que Rome à un moment donné décide. On le voit bien en particulier pour ce qui concerne les ratios de formation dans les séminaires. Il y a la ratio fondamentaliste et puis ensuite la ratio nationaliste. La ratio nationaliste adapte, mais évidemment, elle est contrainte de rester dans le cadre de ce que définit la commission romaine spécialiste de ces questions dédiées spécifiquement à la formation des séminaristes.
Philippe, vous voulez dire un mot sur le vocabulaire ?
Oui, je veux bien. Alors, ça va être très rapide. Nous avons commencé notre travail en utilisant le mot « abus ». Donc, les choses étaient très claires. C'était le vocabulaire que nous recevions. Et puis, petit à petit, nous nous sommes dit « mais l'abus ». Ça ne met pas suffisamment en évidence toute la violence du phénomène. Et nous sommes, du coup, il y a peut-être un an maintenant, passés à un autre lexique qui insiste d'une part sur les violences que nous avons substituées au mot « abus » et sur l'expression que vous avez dû entendre dans ma bouche aujourd'hui, « pédocriminalité » en évitant soigneusement le mot pédophilie que nous employons au début de nos travaux. Tout cela à travers ce vocabulaire pour montrer comment cette commission dans son ensemble a profondément évolué dans son évaluation du mal que nous avions, d'une certaine manière, tout à la fois à décrypter, à mesurer et éventuellement à tenter d'éradiquer.
Merci. Alors, maintenant, prenons une autre série de questions. Oui, voilà, deux mains qui se lèvent de cette partie droite, deux rangs de différence. Laissez vos mains lever de façon, enfin au moins la première. Commençons par le monsieur, ensuite la dame. Excusez-moi, j'aurais dû... Bon.
Bonjour. C'est bon. J'ai pas encore lu le rapport, mais j'ai été frappé au cours de ma vie de chrétien par des confrontations des spiritualités déviantes. Alors, je ne sais pas si le rapport en parle, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être en face de discours pas très clairs entre, par exemple, Marie et le Christ, ou des choses comme ça. Est-ce que ces spiritualités-là, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur de l'Église, comment elles sont amendées, mais enfin, en tout cas, dans un certain nombre de communautés, ça s'est développé. Donc, est-ce que c'est un facteur réel de développement de la pédocriminalité?
Merci. Alors, je vois que derrière, levez la main. Non? Ah oui, si, allez-y.
Beaucoup apprécié, je vous en remercie, tout ce travail de clarification du vocabulaire. Il y a un mot sur lequel je voudrais vous entendre, c'est le mot pardon.
Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question? Ah ben voilà, juste. Pardon, je n'ai pas remarqué dans le fond. Ah bon, alors on prend une quatrième question dans le fond. Allez-y.
Oui, merci de vos interventions. Donc le rapport fait état de des abus sexuels sur les enfants. Est-ce que vous allez mener un travail sur l'abus sexuel et spirituel sur les adultes?
Merci. Alors, on va dans le fond, excusez-moi, voilà, il y a une tout à fait dans le fond. Tout à fait dans le fond, il y a une main qui se lève avec enthousiasme. Dans le fond, les derniers rangs. Ah oui, c'était pour. Bon. Ça tout reviendra plus tard.
On a beaucoup parlé du religieux. Quelle place pour vous ont les laïcs dans cette affaire et peut-être plus largement dans la construction de l'Église et comment nous, on peut se sentir justement concerné, juste dans le sens ajusté.
Merci. On va en rester là. Qui commence?
Merci. Sur votre question, monsieur, des spiritualités déviantes, je pense que, bien malheureusement, on ne peut que confirmer que c'est un terrain d'abus. Oui. Puisqu'encore une fois, la spiritualité déviante, telle que vous l'évoquiez à propos de Jésus et Marie, où on finit par plus très bien savoir si par hasard Jésus n'était pas marié à Marie, et tant d'autres choses particulièrement glauques, mène à la confusion. Tout ce qui mène à la confusion est un terreau d'abus. Forcément, il s'agit de défendre l'inviolabilité du corps humain. Pour défendre l'inviolabilité du corps humain, il faut donc défendre sa singularité, comme celle de l'âme, comme celle de l'intelligence, comme celle de la conscience. Donc à partir du moment où vous créez comme ça des espaces de confusion entre eux, moi je me rappelle de personnes victimes dans des communautés religieuses, catholiques évidemment, disant mais voilà, moi, la supérieure, elle me disait mais tu dois faire ce que demande le Père. Et moi j'avais une sorte d'instant de retenue en disant mais elle me parle de qui? Mais non, elle n'était pas en train de me parler du Père qui est aux cieux, elle était en train de me parler du Père abuseur. Mais la volonté du Père, c'était comme la volonté de Dieu. Donc cela, c'est de la confusion qui participe au climat d'abus, à une sorte d'écosystème tragique de l'abus. Donc oui, en effet, et c'est une... Je ne sais pas si c'est une faute, mais en tout cas c'est une défaillance et sans doute une faute de l'Église tout entière de ne pas avoir été vigilante sur ces pseudo-théologies, ces pseudo-spiritualités, ces pseudo-mystiques. Bien évidemment, peut-être parce que justement, nous avons été, ou d'autres avant nous, aveuglés par une forme de, ce que j'évoquais tout à l'heure, de réussite numérique ou de qui a fait croire que la nouvelle Église était là, ou quelque chose comme cela. Et aujourd'hui, tous ces groupes, pour beaucoup d'entre eux, il y a des enquêtes canoniques, des visites canoniques, voire plus, parfois des procédures judiciaires, pour l'immense majorité d'entre eux. Et cela, collectivement, pas vous bien sûr, mais les responsables de l'Église portent une forme vraiment de responsabilité. De n'avoir pas exercé de vigilance à temps contre cela. Une personne victime disait cet après-midi, mais en fin de compte, il faudrait qu'on s'attaque au petit abus, parce que c'est plus facile d'éteindre un petit feu qu'un grand feu. Ben, c'est assez juste. C'est-à-dire, s'il faut attendre qu'on sache qu'il y a tant et tant et tant de malheurs, tant et tant de vies abîmées pour intervenir, eh bien, non seulement c'est bien malheureux, mais c'est assez scandaleux. Donc malheureusement, oui. Philippe, je ne sais pas si, en fonction du rapport...
Oui, merci Véronique. Moi, je vais tout à fait dans ton sens. On a vu, en effet, dans nos investigations, au niveau des témoignages qui nous ont été donnés, au niveau des archives aussi, l'expression de ce type de discours. Vous savez, un abuseur peut agir lorsqu'il est confronté à un enfant et à une personne vulnérable, adulte, la question a été posée tout à l'heure, en usant de différents registres de légitimation. Il peut y avoir une violence brute, absolue, la violence d'un moment, l'irruption d'une pulsion. Mais très souvent, l'abuseur agit en faisant valoir un discours qui vaut comme tactique de la force. Alors ce discours, il peut emprunter différentes voies. Il y a la voie de l'affectivité, de l'amicalité, « tu es mon ami, je te choisis parce que je t'aime ». Il peut y avoir le discours de la donation matérielle. Souvent, l'abuseur, qui relève, en tout cas dans les archives que nous avons vues et à partir desquelles nous avons établi des statistiques de catégorie supérieure, très souvent, se fixe sur un enfant de catégorie plus populaire. Et par le système du don, par le système du cadeau, obtient ce qu'il cherchait. C'est un deuxième registre de justification, un deuxième registre de légitimation. Il en est d'autres. Le registre du savoir, de l'éducation thérapeutique ou morale, par lequel le prêtre, j'en ai rencontré un, auquel j'ai fait passer un entretien, utilise des massages, par exemple, en disant que c'est absolument nécessaire à la santé de l'enfant qu'il masse, de l'adolescent qu'il masse. Et puis, il y a peut-être un dernier registre de justification qui est celui que vous indiquiez à l'instant, que nous avons appelé dans notre travail le registre de l'érotico-mystique, où l'on détourne en effet ce que le message chrétien peut avoir de plus pur, de plus beau, la logique de l'amour, en amour d'amitié, qui est censé se déployer en gestes corporels, en gestes charnels, parce que la chair, au fond, prolonge l'esprit. Avec deux voies ici, si je peux me permettre ces descriptions. Tantôt, le prêtre ou le religieux abuseur fait l'apologie du corps souffrant et soumet celui qui devient sa victime à des pratiques sadomasochistes. Puis vous avez au contraire le registre du corps jouissant où, par le plaisir, on est censé atteindre la vision béatifique. Ce sont des registres de discours que nous avons recueillis, que nous avons explorés dans le cadre de nos archives et qui, très souvent, s'expriment dans des institutions nouvelles, dans les communautés dites nouvelles en particulier, dont les mécanismes de régulation échappent précisément à la verticalité que nous évoquions tout à l'heure. Des organisations qui se développent en lieu clos et qui se développent d'autant plus qu'elles sont, comme le disait Paul VI, l'avenir même de l'Église. Vous savez, nous sommes dans les années 1970, 1980 et encore 1990. C'est l'espoir de l'Église. Les paroisses se vident, les communautés nouvelles s'emplissent. Et du coup, les relations de surveillance, les relations de verticalité se dissolvent, permettant précisément à tel ou tel gourou charismatique d'imposer sa doctrine et ses pratiques. Alors, ayant dit cela, j'ai presque répondu à la question qui portait sur les adultes vulnérables.
Un adulte vulnérable, c'est bien sûr un adulte qui est placé sous un régime spécifique du droit, la tutelle, la curatelle, par exemple. Mais c'est aussi un adulte que nous repérons comme étant soumis à une relation d'emprise. Le père de Charentenay, qui est parmi nous, me donnait tout à l'heure une brochure qui s'appelle « L'emprise spirituelle ». Eh bien, l'emprise spirituelle, nous l'avons prise en compte également dans notre rapport. C'est à partir de cette emprise spirituelle que souvent se déploient des emprises charnelles. Alors, je voudrais, si vous le voulez, dire un mot, puisque la question a été posée sur le problème du pardon. C'est un très beau mot, le pardon. Paul Ricoeur a écrit des pages magnifiques sur cette question. C'est ce par quoi je reconnais une dette, une responsabilité, éventuellement une culpabilité, ce par quoi je peux reconstruire le lien avec celui que j'ai offensé. On pourrait s'arrêter là et considérer que le pardon est au cœur même de l'économie chrétienne du sens et nous permet précisément de vivre mieux les uns avec les autres sur le fondement d'une éthique qui trouve son principe dans la parole même de l'Évangile. Et pourtant, le pardon probablement ne suffit pas. Il ne suffit pas pour deux raisons. D'abord parce que dans l'Église, il a souvent été détourné de son sens. Le pardon existe lorsque le coupable va vers sa victime et vient à récipiscence en lui demandant de l'excuser et plus encore. Il se trouve que dans les documents que nous avons compulsés, le pardon se trouve inversé. Et c'est l'évêque, le prêtre de paroisse, qui vient voir la famille du petit enfant abusé en lui demandant de pardonner à son agresseur. Et manque ici une dimension essentielle de l'économie chrétienne du sens. Le pardon, sans doute, mais à condition qu'il s'accompagne aussi de la justice. C'est ce que nous disent très souvent les associations de victimes, les victimes elles-mêmes. Il faudrait d'abord que le prêtre abuseur me demande de le pardonner, mais cela ne suffirait pas, il faut aussi qu'on me reconnaisse par la justice dans le drame que j'ai vécu. Vous voyez donc, il faut se méfier du pardon, même si je ne vous incite pas à le rejeter, c'est absolument essentiel pour reconstruire le lien, pour effacer la dette. Mais se méfier du pardon seul, parce que le pardon peut être détourné de son sens, je crois l'avoir dit à propos de ces démarches d'évêques ou de prêtres qui allaient voir les parents des enfants abusés, il peut être détourné de son sens et il peut être réduit à la seule expression d'une relation entre l'abuseur et l'abusé. Il en est une autre dimension, c'est la dimension de la justice. Voilà pourquoi il convient toujours d'articuler pardon et justice, et c'est, me semble-t-il, ce que nous avons essayé de faire dans le cadre de ce rapport. Alors, il y a une autre question qui porte sur la place des laïcs, mais peut-être sur ce terrain, Véronique en dira peut-être plus que moi.
Non, juste un mot, c'est sûr. Aussi sur la question du pardon, vous savez, enfin, la dette que nous avons envers les personnes victimes est une dette qui ne se soldera pas. Encore une fois, parce qu'une vie est insolvable, parce qu'on ne peut pas réparer ce qui s'est produit. Autrement dit, la justice est impérative, le faire justice. Et après seulement, en quelque sorte, ce qui reste, ô combien, de la dette, peut peut-être être, sinon, effacé. Mais, en tout cas, regarder autrement par la personne victime si la justice est passée. Et là aussi, c'est souvent une de nos confusions. Au lieu de faire justice, nous invoquons le pardon. Mais enfin, si vous êtes victime d'un crime, je suppose que, ou alors vous êtes beaucoup plus sain que moi, ce qui est sûrement le cas, mais si c'est moi, je vous assure que je ne vais pas chercher le pardon, je vais chercher la justice. Parce que c'est ce qui est dû à ma dignité humaine. C'est ce qui est dû même à la dignité du coupable. Pour qu'il soit reconnu aussi comme porteur des actes qu'il a posés. C'est ce qui est dû à la société dans laquelle nous vivons. Après, peut-être, voilà, peut-être, un jour, sera-t-il possible de parler du pardon. Et je pense, pour terminer ce point, à ce si grand livre, en plus de celui de Paul Ricoeur, de Vladimir Yankelevitch, sur le pardon, où pour lui, en fin de compte, le seul qui est pardonné, c'est Jésus, et à vrai dire, ça suffit que lui, il ait fait. Je trouve que c'est assez consolant. Mais où il a ce mot, quelque part, là, en disant, mais le pardon, c'est ce qui tombe gratis. Voilà, c'est ce qui tombe gratis, peut-être, un jour. Donc, il faut laisser cela, je crois, au mystère des personnes, dans la mesure où nous faisons notre travail. Non pas de faire la justice, car pour tant et tant de situations, ça n'est plus possible, mais de faire justice à ce qui a été subi. Sur la place des laïcs, je dirais simplement que je pense que le rapport le manifeste amplement, et nous le disions en d'autres circonstances, enfin, tout ce qui favorise les mondes clos favorise la culture de l'abus. Voilà. C'est vrai de partout, et c'est donc aussi vrai, bien malheureusement, de notre Église. Et donc, il faut introduire partout de l'altérité, et en particulier dans la façon d'animer, de gouverner les communautés chrétiennes, de les faire vivre. Et ceci, si j'ose parler ainsi, à tous les étages. Plus il y aura d'altérité, moins les plus vulnérables seront en danger. Rien n'est magique, rien n'est la solution. Tout trouvé, sinon j'ose penser que nous l'aurions déjà trouvé. Mais en tout cas, tout ce qui favorise l'enclos favorise cette culture-là. Donc la place des laïcs, elle est fondamentale parce que sans les laïcs, il n'y a pas d'église. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres justifications. À la place des laïcs, dans la vie de l'église et donc dans des formes à trouver encore, bon, il y a eu des progrès, mais ils ne sont pas suffisants, de la gouvernance de l'église. Mais par-dessus le marché, en faisant cela, qui correspondra à la réalité du peuple de Dieu, tout simplement, hein, dans toute sa diversité, eh bien, nous rendrons l'Église plus attentive à cet enjeu fondamental de la protection des personnes les plus vulnérables, qu'il s'agisse de mineurs ou qu'il s'agisse de majeurs en situation ponctuelle, hein. De plus grande vulnérabilité, comme on l'a évoqué, dans des communautés, dans des séminaires, ou tout simplement aussi hein, des personnes laïques dans leur vie, dans des moments difficiles, où du coup, elles sont en vulnérabilité. Donc pour moi, c'est un enjeu à la fois ecclésiologique, tout simplement, afin que la gouvernance de l'Église ressemble au peuple de Dieu, mais c'est aussi un enjeu de protection que cette place.
Il est déjà 21h, en principe nous avons dépassé le temps, mais c'est toujours très problématique de frustrer des questions et vu l'importance du sujet. Je ne sais pas si on peut encore prendre des questions, si on s'arrête à ce moment. Oui, pour nous en sommes.
Thank you.
Alors, si vous êtes encore vivant, je pense qu'on peut en prendre une série rapide de questions et ensuite des réponses rapides. Alors, dans le fond, il y avait une main juste derrière vous, Franck. Voilà, c'est ça.
Oui, la question a été posée. L'Église d'aujourd'hui doit-elle payer pour l'Église d'hier, celle des décennies 50 et 60, si j'ai bien compris? Est-ce qu'il faut comprendre que les décennies plus récentes étaient moins concernées par toute la violence dont vous nous avez parlé?
Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Je sais pas, il y avait des mains qui s'étaient levées. Ah oui, par ici, voilà. Au bout là-bas. Alors, je ne sais pas, est-ce que je ne vois pas bien les mains qui se lèvent? Ah, voilà.
Merci beaucoup aux intervenants qui nous aident vraiment à comprendre, autant qu'on le puisse, en tout cas, nous ouvrir à cette question. J'avais une question pour ma part. Lors des travaux de la commission, quels ont été les grands points de débat, voire de dissensus, voire de consensus?
Réponse rapide, Philippe. est-ce qu'il y a une des mains qui se lève plus? Voilà, devant le pull-over bleu. Voilà.
Chemise. Car le sol.
On ne reste pas là.
Au début de la réunion, je crois que M. Portier avait parlé un peu de méthodologie, où il a dit qu'il en parlerait. Je pense que vous avez eu un certain nombre de témoignages, un certain nombre de choses trouvées dans les archives, et ensuite vous êtes passé à une enquête pour passer de 7500 victimes à 2000, à 200 et quelques mille. Comment est-ce que vous faites le lien entre les deux, s'il vous plaît?
Voilà, donc les questions sont peut-être plus pour Philippe, peut-être, ou Véronique, sur l'Église aujourd'hui et l'Église d'hier. Peut-être que Philippe prépare sa réponse.
Voilà. Alors moi, je dirais juste un mot à propos de votre question, madame. De toute manière, l'Église d'aujourd'hui doit payer pour l'Église d'hier. Ça, c'est clair. Parce que nous sommes heureux quand nous pouvons nous dire, mais nous sommes les générations qui héritons du trésor du passé, des générations passées. Eh bien, nous avons aussi à apporter les tragédies du passé. Je le crois profondément, et par-dessus le marché, il ne faut surtout pas croire que nous sommes en train de payer pour les crimes des années 50, nous sommes en train de devoir payer, pour prendre ce verbe qui n'est sans doute pas tout à fait ajusté, en tout cas de faire justice, pour les crimes des années 50 à nos jours, clairement, qui ne peuvent pas être de même masse, mais cette même masse en valeur absolue, je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, parce que si en valeur absolue le chiffre est évidemment décroissant, c'est parce qu'il y a moins de prêtres et de religieux avant tout. Donc je ne suis même pas sûr qu'on puisse se réjouir, mais en valeur relative, c'est tout autre chose. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'un seul coup en 2021 de dire... Voilà, il a pris, je ne sais pas ce qu'il a pris par la tête de l'Église de France, d'un seul coup, de faire une telle introspection par une commission indépendante pour payer pour des vieilles choses. Encore une fois, ces vieilles choses sont vivantes dans la vie des victimes d'aujourd'hui. Et en plus, ce ne sont pas des vieilles choses, loin s'en faut.
Véronique a tout à fait raison, ce ne sont pas des vieilles choses, en effet. Quand on essaye de mesurer le phénomène, contrairement au cahier des charges que nous avait donné la COREF et la Conférence des évêques de France, on s'aperçoit qu'il existe, du point de vue de la comptabilité des abuseurs, trois périodes. Première période, c'est la phase culminante qui court de 1950 à 1970. Là, vous avez
sur une période de 20 ans, nous avons travaillé sur 70 ans, nous avons près de 60% des abus, 56% des abus qui se déroulent en 20 ans. Ensuite, vous avez une phase de déclin très nette entre 1970 et 1990. Et puis ensuite, une stabilisation plutôt déclinante. Voilà en somme la ligne que je vous propose. Phase culminante, déclin, stabilisation, avec une pente légèrement déclinante. Alors, là, je viens de vous présenter les choses en chiffres absolus. Il faut évidemment rapporter ces chiffres absolus au nombre de prêtres et religieux. Vous savez, au début des années 1950, il y a encore 42 000, 43 000 prêtres diocésains. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 12 000 avec simplement 5 000 prêtres réellement actifs. Vous voyez que les proportions ne sont plus de même nature. Et l'on voit bien que c'est un corps social dans le corps social global qui s'est effacé en l'espace de 60-70 ans. Peut-être les plus anciens d'entre nous se souviennent-ils d'une rue de Paris, et plus encore d'une rue de Bretagne. Avant les années 1970, on croisait des sœurs en cornette et on croisait des prêtres en soutane partout dans les villes. C'est une catégorie qui s'est effacée avec le temps, comme viennent de vous le montrer les chiffres que je vous ai donnés. Du coup, vous pouvez comprendre pourquoi, en effet, en chiffres absolus, il y a moins d'abuseurs aujourd'hui qu'hier. Mais quand on rapporte le nombre de prêtres abuseurs au nombre de prêtres en activité, on s'aperçoit que finalement l'époque actuelle est une époque où l'abus demeure. Ne nous laissons pas d'une certaine manière occulter la réalité par la courbe en chiffres absolus que je viens de vous donner. Elle décline sans doute, mais elle reste fondamentalement stable, avec peut-être un petit déclin cependant, quand on opère le calcul en chiffres relatifs, c'est-à-dire sur le fondement d'un rapport entre le nombre de prêtres abuseurs et le nombre de prêtres présents ou le nombre de prêtres en activité. Première remarque. Deuxième remarque, toujours une question de ce type, hein, une question de quantification, l'enquête en population générale dont je vous parlais tout à l'heure nous donne 216 000 victimes avec une marge d'erreur de 50 000 vers le bas ou de 50 000 vers le haut. C'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. 216 000. Et nous, dans les archives, nous sommes capables, c'est la deuxième enquête, de repérer de manière certaine, avec des noms, à peu près 5 000 victimes. 5 000 victimes avec des noms. Alors, vous allez me dire, mais enfin, c'est donc que les archives ne disent pas la vérité. Elles disent leur vérité, c'est-à-dire la vérité d'un peuple chrétien qui, longtemps, ne s'est pas confié à l'Église. D'un peuple chrétien qui voyait ses plaintes quand elles existaient, et elles existaient peu, ne pas être enregistrées par le système ecclésial lui-même. De sorte que il faut toujours, quand on fait de la sociologie de la criminalité, faire une distinction entre la criminalité réelle, que le chiffre de 216 000 probablement approche, et puis la criminalité apparente, celle qu'on trouve dans les pièces d'archives en particulier, d'archives de l'Église, d'archives judiciaires que nous avons également explorées et qui se situent naturellement à un niveau inférieur, sachant que l'enquête qui a été la nôtre reprend sur le terrain que vous évoquez, celle qui existe sur d'autres terrains. Lorsque on fait des enquêtes de victimation sur la France entière, sans prendre en compte le cas de l'Église catholique, on s'aperçoit d'une distinction très nette entre ce que les tribunaux enregistrent, criminalité légale, si vous voulez, et puis ce qui existe réellement, les personnes abusées qui ne se plaignent pas au commissariat ou auprès du procureur, criminalité réelle, mais toujours sous-évaluée, évidemment, dans le cadre des enquêtes de victimation. Enfin, un dernier point, qui est le point où je ne crois pas trahir ce que j'ai vécu, si vous voulez. Point de dissensus, point de consensus au sein de la commission des commissions sur les abus sexuels, indépendantes sur les abus sexuels dans l'Église. Il n'y a pas eu de vote, jamais, dans le cadre de cette commission. Nous nous réunissions une fois par mois et à la fin, une fois toutes les semaines pratiquement, en commission plénière. Et s'ajoutaient à ces commissions plénières des commissions spécialisées, commissions sur la théologie, commissions sur l'évaluation des mesures prises par l'Église pour endiguer le phénomène, commission également sur le droit, commission enfin sur la justice réparatrice, la justice distributive, la justice reconstructrice. On a retenu finalement réparatrice. Ce qui apparaissait, si vous voulez, c'est que toutes les décisions étaient prises au bout du compte par consensus. Consensus ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de discussion. Alors, je vais vous dire le point sur lequel il y a eu vraiment, vraiment un accord sans discussion. C'est sur la question de la gouvernance. C'est-à-dire que nous sommes tous tombés d'accord pour dire qu'il y avait dans l'Église une verticalité qui tantôt pouvait partir de Rome, tantôt, comme le disait très justement Véronique tout à l'heure, pouvait partir de l'évêque local, comme on le voit dans le code de droit canonique, où il a véritablement un pouvoir très important d'engagement de la cause et d'instance de jugement, pratiquement. Un système, donc, qui fait droit à la concentration du pouvoir, à la toute-puissance des autorités, sans que jamais ces autorités n'entrent dans une culture du contre-pouvoir, du débat interne, de la limitation de leurs propres prérogatives. Et sur ce terrain-là, il n'y a même pas eu de discussion. Alors on prenait la parole parce qu'il fallait bien que nous échangions quelques arguments, que nous faisions valoir une théorie peut-être de l'action démocratique et de la société de transparence, mais là je n'ai aucun souvenir d'une quelconque opinion séparée, d'une quelconque opinion dissidente. Là où l'on a pu avoir des divergences, c'est sur la question de la théologie. Et vous le percevrez, si vous lisez le rapport, il y a sur les questions théologiques des verbes qui sont nettement moins injonctifs que sur les questions de gouvernance. Sur les questions de gouvernance, les choses sont claires. Changer le droit, enfin, c'est peut-être pas dit comme cela, hein, changer le code de droit canonique. Faire évoluer le code de droit canonique, vous voyez, quelque chose qui relève de l'impérativité. Lorsqu'on aborde les questions plus fondamentales, peut-être, de la théologie, nous appelons davantage au discernement de nos lecteurs. Porter la réflexion sur, passer au crible le. Et passer au crible quoi, par exemple? Le célibat des prêtres. Y réfléchir, au moins. Réfléchir aussi à l'ordination des hommes mariés. Réfléchir aussi aux déviations possibles d'une théologie du sacerdoce et de la prêtrise trop exclusive. Réfléchir aussi, par exemple, à la question de l'obéissance, dont on appelle toutefois à compenser les effets possiblement liberticides par un appel à la conscience, très clairement affirmé sur ce point, en revanche. Et puis, donc je viens de vous dire les consensus très forts, je viens de vous dire les moments de discussion qui se traduisent dans le texte par des verbes, vous voyez, qui appellent davantage à la réflexivité qu'à l'impérativité. Et puis, il y a eu une évolution sur un point particulier qui va probablement intéresser certains parmi nous. C'est la question du sacrement de pénitence, la question du secret de la confession.
Alors, sur ce terrain, nous avons choisi une formule qui est une formule médiane, si vous voulez. Nous ne demandons pas la levée du secret de la confession, parce que ce serait remettre en cause, nous semble-t-il, un apport fondamental du christianisme à la culture du fort interne, la culture du secret, à la culture de l'intime, qui est aussi au principe, vous voyez, de notre culture moderne, l'intime. Bien cet intime, dès le XIIIe siècle, on le voit apparaître à travers les principes de la confession auriculaire. Fallait-il remettre en cause cela, qui repose sur une relation de confiance entre le prêtre et celui qui se confie à lui. Alors nous avons trouvé une formule qui vaut ce qu'elle vaut, je vous la donne, si vous voulez, et il sera demandé, ou en tout cas nous demandons que l'évêque demande à ses prêtres, son presbytérium, de ne pas appliquer le secret de la confession dès lors qu'il serait confronté à l'aveu d'un abus sexuel sur un mineur. C'est donc, vous voyez, le maintien du principe avec une exception qui touche la question de l'abus sexuel, de la violence sexuelle sur les mineurs. Et c'est de la sorte, vous voyez, je vous fais entrer non seulement dans l'atelier, mais dans la délibération de la commission, que cette question si difficile a été tranchée parce qu'il y avait un dissensus sur ce point.
Alors, ce n'est pas un point de conclusion. Je pense que nous allons nous arrêter cette soirée maintenant. Je ne sais pas s'il me revient de terminer ou si je laisse la parole à Jean-Luc pour un dernier mot.
Eh bien, pour un petit rappel simplement, c'est que vous trouverez à la sortie de cette salle des urnes, qui ne sont pas là pour des élections primaires, mais pour votre contribution à l'organisation des mardis d'éthique publique. Le Centre Sèvres a besoin de votre appui, de votre aide pour continuer à organiser ces mardis, en particulier après la période que nous venons de traverser. Et puis vous signalez que vous pourrez également à la sortie acquérir non pas le dernier livre de Philippe Portier, Les religions dans la société française chez Armand Collin, excellent ouvrage, mais il n'est pas là. Mais le livre de Véronique Margron, Un moment de vérité, voilà, qui est en vente à la sortie. Abus sexuel dans l'Église, une théologienne s'engage. Et aussi de Pierre de Charentenay, qui doit être quelque part dans la salle. Tolérance zéro, lutter contre la pédophilie dans l'Église. Voilà, tout cela est en vente à la sortie. Et nous vous donnons rendez-vous le mardi 9 novembre pour le prochain mardi d'éthique publique. Merci. Gardez le...